Radio Prague, les informations.
L'État et l'Église ont signé un accord sur un usage commun de la cathédrale Saint-Guy. La ratification de l'ensemble de mesures énergétiques adoptées par la Commission européenne est prévue pour l'an 2009. Les négociations sur l'emplacement d'un radar américain antimissile en Tchéquie se poursuivent. Un accord entre les représentants de l'Église catholique tchèque et le château de Prague portant sur l'usage commun de la cathédrale Saint-Guy a été signé jeudi en fin de matinée. L'annonce de la signature a été faite par le porte-parole de l'archevêché de Prague. Selon cet accord, la garde, les frais de fonctionnement et l'entretien de l'édifice seront aux frais de l'État. L'Église versant, quant à elle, en échange un forfait mensuel de 500 couronnes, environ 19 euros. L'ensemble de mesures énergétiques et climatiques qui a été adopté par la Commission européenne sera soumis au processus de ratification le plus probablement au printemps 2009, donc au moment où la République tchèque présidera l'Union européenne. Cette échéance a fait l'objet d'un consensus entre les ministres de l'Environnement de quatre pays, la Slovénie, la République tchèque, la France et la Suède. La semaine prochaine se tiendront les rencontres tchéco-américaines qui permettront d'affirmer clairement dans quel sens se poursuivent les négociations relatives à l'emplacement d'un radar américain sur le territoire tchèque. Les négociations sur les accords s'y rapportant se poursuivront jusqu'au 7 février au moins, date de la venue prévue à Prague du négociateur américain John Rood. Au cours de l'année 2007, 122 nouveaux cas de contamination par le virus HIV ont été identifiés en République tchèque. Selon les statistiques, il y aurait dans le pays plus de 1040 personnes séropositives et près de 230 malades souffrant du sida. Les experts estiment cependant que ces données statistiques ne correspondent pas à la réalité et que le nombre de personnes touchées par la maladie serait nettement supérieur. Le prestigieux complexe de studios Pragua Barrando, principaux studios de cinéma tchèque, et parmi les plus grands en Europe, célèbre vendredi le 75e anniversaire du tournage du premier film tourné dans ses ateliers et laboratoires. À partir de la saison prochaine, qui commencera en septembre 2008, l'Autrichien Manfred Honeck sera le chef d'orchestre invité de la Philharmonie tchèque. C'est jeudi et vendredi, Honeck dirige la Philharmonie tchèque, salle Rodolfinum à Prague. L'orchestre symphonique de la capitale Efoka a terminé une tournée d'un mois au Japon, pendant lequel il a donné 14 concerts. Météo, c'est un temps variable avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies qui règnent sur l'ensemble du territoire. Les températures se situeront ce vendredi entre 3 et 7 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gbertova.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet récurrent de l'actualité tchèque qui semble trouver une issue. Le gouvernement a approuvé un projet de loi sur la nature et le montant des dédommagements que l'État accordera aux églises de République tchèque, spoliées par le régime communiste. Cette loi est le fruit d'un accord entre les deux parties, 19 ans après la révolution de velours. Jan Švejnar est le candidat des sociaux-démocrates et des Verts à l'élection présidentielle de février et le concurrent de l'actuel président. Alexis Rosenzweig s'est entretenu avec lui et dans la langue de Molière, s'il vous plaît. D'après Bruxelles, la République tchèque doit doubler sa part d'énergie renouvelable d'ici 2020. Guillaume Narguet, dans quelques instants. Et enfin, Jarka Gisubelova évoquera l'existence d'un office pour la protection juridique des enfants au niveau international. Ou que vous nous écoutiez dans le monde, bonne écoute de nos programmes. les églises de République tchèque vont se voir accorder des dédommagements pour les confiscations de leurs biens sous le régime communiste. Tels sont en substance les termes du projet de loi qui a été approuvé mercredi par le gouvernement, résultat d'un accord trouvé avec l'ensemble des 17 églises du pays. Une solution qui pourrait à terme mettre un point final au problème des restitutions qui empoisonnent les relations entre l'État et les églises depuis 1989. La loi prévoit des dédommagements sous deux formes. L'État devra d'une part restituer aux congrégations et ordres religieux un tiers des biens confisqués par le régime communiste entre 1948 et 1989. Le reste des dommages causés et des biens que conservera l'État sera compensé par une somme de 83 milliards de couronnes, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. Mais cette somme sera reversée aux églises sur une durée de 60 ans. Le montant total des dédommagements s'élèvera donc en tout à 270 milliards de couronnes, un peu plus de 10 milliards d'euros, si l'on prend en compte les intérêts pour chaque annuité. Pour le ministre chrétien démocrate des Finances, Miroslav Kalousek, cette solution est la plus avantageuse pour les caisses de l'État.
Sinon, nous devrions nous endetter auprès d'instituts financiers et de banques pour rembourser ces 83 milliards de couronnes. Il s'agirait d'une opération qui reviendrait bien plus cher à l'État.
Cette loi est le résultat d'un accord trouvé à la fin de l'année 2007 entre les représentants d'une commission gouvernementale menée par le ministre chrétien-démocrate de la Culture, Václav Jehlička, et une commission ecclésiastique. La loi doit toutefois passer encore par le Parlement, ce qui promet encore des débats. D'un côté, les sociaux-démocrates reprochent au gouvernement d'avoir mené les négociations sans tenir compte de l'opposition. Mais même au sein du Parti civique-démocrate, parti majoritaire de la coalition gouvernementale, certaines voix sont discordantes, notamment sur la somme à débourser. Miroslava Němcová, présidente de la Chambre des députés.
Il serait bon d'examiner encore si la somme des intérêts à payer est vraiment optimale pour l'État et pour l'Église. Je pense qu'il y a encore matière à discuter une meilleure solution.
Autre terme de l'accord, les églises continueront encore de recevoir les dotations de l'État à hauteur d'un milliard de couronnes pendant 20 ans, en plus des dédommagements prévus, mais la somme ira progressivement en décroissant. Du côté des églises, les représentants ecclésiastiques semblent être satisfaits du compromis. Le cardinal Miloslav Volk a rappelé à la télévision publique tchèque que l'Église accomplissait là un geste significatif en acceptant de renoncer à ses biens.
Les dédommagements représenteront une somme correspondant aux biens auxquels nous renonçons. Ce que nous allons recevoir nous permettra surtout d'investir pour qu'à l'avenir, nous puissions mettre en œuvre un modèle économique efficace qui nous soit propre afin que nous soyons indépendants et que nous ne dépendions plus de l'État.
Un seul aspect n'est pas pris en compte par cette loi, le problème de la cathédrale Saint-Guy à Prague, dont Église catholique et État se disputent le droit de propriété depuis 15 ans. Seule petite avancée, jeudi, les deux parties ont signé un accord réglementant pour une durée indéterminée l'exploitation et l'usage commun du bâtiment. L'élection présidentielle tchèque aura lieu le 8 février prochain au château de Prague où se réuniront députés et sénateurs pour voter. Face au président sortant, Václav Klaus, le professeur d'économie Jan Švejnár, exilé en 1970, qui enseigne notamment aux États-Unis. La candidature de cet ancien conseiller de Václav Havel est soutenue par le Parti social-démocrate et le Parti des Verts. Il mène actuellement une campagne à l'américaine sur le terrain avant d'affronter son adversaire lors d'un débat au Sénat la semaine prochaine. Alexis Rosenzweig l'a rencontré après une de ses rencontres de presse et en a profité pour lui poser quelques questions en français.
Monsieur Švejnár, d'abord, est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous avez appris le français ?
J'ai étudié un peu à Genève, en Suisse, puis j'ai travaillé en Belgique, et puis je travaille aussi en Afrique, au Sénégal.
Vous parlez très bien le français.
Je parle un peu, oui.
Alors, pour revenir à votre candidature, quand Monsieur Topolánek a présenté son gouvernement, il a dit « il y a tant de ministres, il y a deux femmes et deux exilés », comme si les exilés représentaient une catégorie à part dans ce pays. Est-ce que, selon vous, un exilé a quand même des chances d'être élu président de la République tchèque?
Oui, certainement. J'ai posé la candidature parce que je pense que j'ai la chance. Je pense que les exilés maintenant sont beaucoup plus intégrés dans la société tchèque qu'auparavant. Pourtant, je pense que j'ai une très bonne chance. Oui.
Si vous pouviez expliquer à des auditeurs francophones qui ne connaissent pas forcément M. Klaus ou qui ne vous connaissent pas forcément, quelles sont vos principales différences? Comment est-ce que vous pourriez les résumer?
Oui, je suis. D'abord, je suis plus jeune, naturellement. Je suis une autre génération. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. Je connais le monde beaucoup plus que M. Klaus. Je pense que c'est très important parce qu'avec la globalisation mondiale qu'on observe maintenant, je pense qu'il faut avoir un gouvernement, un dirigeant de l'État qui est, disons, bien au courant avec ce qui se passe dans le monde entier. Et puis, je suis beaucoup plus pro-Europe. Je suis, ma position est que la République tchèque doit être un membre très actif dans l'Union européenne. Et là, il y a une très grande différence entre moi et M. Klaus.
Dernière question. Les médias tchèques parlent beaucoup de votre double nationalité. Vous êtes américano-tchèque et tout le monde se pose la question de savoir si vous allez renoncer à la nationalité américaine. Où en êtes-vous?
Oui, alors là, il y a des précédents, il y a des gens qui ont deux nationalités. Moi, je réfléchis sur cette question. Et, bon, je vais décider moi-même dans une semaine, deux semaines, je ne sais pas exactement.
Vous n'avez pas encore pris de décision?
Je n'ai pas pris la décision.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
La République tchèque devra multiplier par deux d'ici à 2020 la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique globale. Tandis que cette part s'élevait jusqu'à présent à 6,1%, elle devra être au moins 13% à la fin de la prochaine décennie. Tel est l'un des principaux enseignements qui ressort pour les Tchèques du nouvel ensemble de mesures environnementales présenté mercredi par la Commission européenne. Guillaume Narguet.
Les mesures dévoilées à Bruxelles doivent permettre d'aider l'Union européenne à atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique à l'horizon 2020, à savoir notamment 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi donc que 20% d'énergie renouvelable et au total 20% d'augmentation de l'efficacité énergétique. À cette fin, différents plafonds, tant pour les émissions de dioxyde de carbone que pour les énergies renouvelables, ont été fixés pour chacun des 27 États membres. Une attribution de limite qui a fait grincer de nombreuses dents, la République tchèque ne se rangeant cependant pas, une fois n'est pas coutume, en matière d'affaires européennes parmi les grincheux. Outre le doublage de la part des énergies renouvelables, quota raisonnable dont s'est félicité le Premier ministre Mirek Topolánek, Prague a en effet également été autorisée à augmenter de 9% ses émissions de dioxyde de carbone dans certains secteurs d'activité bien précis, comme le bâtiment, l'agriculture ou plus généralement les services, comme par exemple les déchets. Une mesure visant à favoriser le développement économique dont bénéficient la majorité des pays d'Europe centrale et orientale, la Bulgarie et la Roumanie étant même autorisées à augmenter leurs émissions de 20%. Le ministre vert de l'Environnement, Martin Bursík, a lui aussi fait part de sa satisfaction en affirmant que l'augmentation réclamée par Bruxelles de la part d'énergie renouvelable dans la consommation tchèque d'énergie correspondait à peu de choses près aux estimations faites par le gouvernement des capacités réelles de sources d'énergie renouvelable dont dispose la République tchèque. Reste qu'avant de pouvoir être appliquées, toutes les mesures de la Commission européenne doivent encore être adoptées par les parlements de chaque État membre et par le Parlement européen. Une adoption qui n'est pas acquise d'avance, mais qui pourrait être effective au printemps 2009, lorsque la République tchèque présidera alors l'Union européenne.
L'Office pour la protection juridique internationale des enfants a une nouvelle directrice, l'avocate pragoise Lenka Pavlova. Or, le siège de l'Office à Brno est depuis plusieurs jours bloqué par l'association de pères divorcés K213, qui n'ont pas laissé entrer sa nouvelle directrice, lui reprochant notamment d'être représentante d'organisations féministes. Yarka Gisubelova.
Nathalie Barao, Sophie et Luca Krajnik, Adriane Santana. Des noms d'enfants de familles mixtes dont les médias ont parlé ces derniers mois en rapport avec les enlèvements parentaux internationaux. Dans ces affaires, l'Office pour la protection internationale des enfants était présenté comme une institution ne défendant pas conséquemment leurs droits. Ce qu'on appelle enlèvements internationaux d'enfants ne représente que 5% de l'agenda de cet office. Sa mission est d'exiger le versement effectif des pensions alimentaires pour les enfants tchèques à l'étranger et vice-versa, de s'occuper des adoptions internationales et du régime de la garde des enfants. Le cas d'enfants enlevés, la nouvelle directrice Lenka Pavlova en a fait l'expérience. Elle était l'avocate de Nathalie Barrao, que son père a emmenée avec lui au Portugal, malgré les protestations de sa mère. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Petr Nečas, qui a introduit la nouvelle directrice dans ses fonctions, espère qu'elle saura regarder chaque affaire avant tout d'un point de vue humain. Et c'est aussi ce que souhaite la présidente du Fonds pour les enfants maltraités, Marie Vodičková. J'y vois un espoir pour que les enfants soient épargnés par les drames et les traumatismes auxquels ils sont parfois exposés. Avec quel projet la nouvelle directrice arrive-t-elle dans les fonctions? Tout d'abord, elle veut modifier la loi sur la demande d'exéquature, les cas où les enfants sont confiés à la garde de l'un des parents sur ordre du tribunal, et la loi sur la famille, notamment sa partie concernant la tutelle. Elle veut aussi faire valoir le droit de l'enfant à exprimer son opinion sur les procédures qui le concernent.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui mettent en doute le droit de l'office de connaître l'avis de l'enfant tant que les limites ne seront pas posées de la part de ses représentants légitimes, c'est-à-dire de ses parents.
Lenka Pavlova veut aussi que la priorité soit donnée au règlement extrajudiciaire des conflits de garde d'enfants. Sa nomination est cependant mise en cause par l'association K213, réunissant quelque 480 membres, les pères divorcés qui n'ont pas la possibilité de voir régulièrement leurs enfants. Leur porte-parole, Yigifiala, reproche à Lenka Pavlova d'être représentante d'organisations féministes militantes. Lenka Pavlova ainsi que ses anciens collaborateurs rejettent cette accusation, d'autant que dans sa pratique d'avocat, les hommes bénéficiant de la garde représentent un pourcentage assez élevé. Le blocage de l'office a été sévèrement critiqué par le ministre Nečas. Quant à la nouvelle directrice, elle travaille dans un autre lieu en attendant la fin de la protestation et n'a pas non plus l'intention de céder.
Fin des faits et événements en République tchèque, restez à l'écoute tout de suite, découvrez une nouvelle personnalité tchèque.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Lorsque l'homme se met à se poser des questions sur soi-même et réfléchir sur sa destinée, une question fondamentale se pose. Si je dois prendre part à la vie, pourquoi dois-je souffrir et mourir? Pourquoi tout être et matière vivante sont soumis à la souffrance et à la mort? Pourquoi nul ne peut rester en dehors dans le rôle d'un spectateur? Pourquoi fus-je projeté dans l'existence? C'était un extrait de l'introduction à la discussion sur les religions ou brève méditation sur la signification de la souffrance et de la mort du professeur Jan Heller, décédé le 15 janvier 2008 à l'âge de 83 ans. Cet homme remarquable, membre émérite de la faculté de théologie évangélique de l'université Charles à Prague, est l'auteur d'un grand nombre d'études sur la religion antique et sur l'exégèse de l'Ancien Testament. Il a également rédigé une interprétation des textes de la Bible publiée sous forme de recueil. Le professeur Heller faisait partie des traducteurs écuméniques tchèques de la Bible. À partir de 1950, il est lecteur d'hébreu à la faculté Komenský et dans les années 60 maître de conférences à l'université Humboldt ainsi qu'à la Kirchliche Hochschule à Berlin.
Я мыслим, Je pense que lorsque l'âge de l'homme est fort avancé et qu'il souffre de maux divers, le plus précieux s'avère être la paix au fond du cœur, confirmant au plus profond de moi que j'appartiens à Dieu, que rien ne peut m'arracher à lui, qu'il s'agisse d'une inquiétude de l'extérieur, un mal, une entrave ou une contrariété. De mon point de vue, la paix au fond du cœur est la façon dont Dieu nous prépare à vivre dans son royaume, et je lui en suis fort reconnaissant.
C'était le professeur Jan Heller dans l'émission de Petr Vajora, journaliste de l'émission religieuse de la radio tchèque. Je laisse Petr Vajora évoquer ses impressions sur le professeur Heller.
Jan Heller patřil k nejoblíbenějším profesorům evangelické teologické fakulty. Své studenty měl rád.
Jan Heller faisait partie des professeurs les plus appréciés de la faculté de théologie évangélique. Il aimait ses élèves et suivit leur parcours même après qu'ils aient quitté l'université. Lorsqu'à cause d'une grave maladie, il fut dans l'incapacité de continuer à exercer ses activités pédagogiques, il a accepté avec gratitude la possibilité d'interpréter les textes de la Bible sur les ondes. Tout d'abord, les enregistrements ont eu lieu avec Petr Kolarj et depuis 2003 avec moi pour l'émission de la radiodiffusion Vltava dans la parole matinale diffusée le dimanche. Nous avons également enregistré plus de 30 émissions sur les personnages bibliques, la civilisation et les textes pour l'émission chrétienne de la radio tchèque à Plzeň et pour Transworld Radio, qui est une radiodiffusion de mission. La plupart du temps, nous avons réalisé les enregistrements chez les Heller, car la santé du professeur ne lui permettait guère des déplacements à longue distance. Malgré son professionnalisme, Jan Heller n'a jamais sous-estimé les enregistrements et se préparait toujours minutieusement. Les émissions avec le professeur avaient une écoute importante, car il parlait de façon compréhensible et son approche était très personnelle. Il ne craignait guère de parler de la foi, de son rapport au Christ, de l'espoir et de la recherche de la paix intérieure.
O naději a hledání vnitřního pokoje.
La parole est encore une fois au professeur Jan Heller.
Taková ta nafouklá vážnost, to je přece zrcadlo sobectví.
Un sérieux pompeux est comme le miroir de l'égoïsme. Où donc cela peut-il mener lorsque l'homme ressent le besoin de se prendre au sérieux et lorsqu'il est hautain par rapport aux autres? Je ne me suis jamais retrouvé dans un tel isolement et je n'aimerais jamais le ressentir. C'est si beau de ne pas être censé se prendre trop au sérieux. J'apprécie beaucoup une phrase de Jean de Luxembourg que je vais vous citer. « Jamais un roi de Bohême ne fuira un champ de bataille. Et moi je dis, jamais je ne me prendrai au sérieux. Si cela était le cas, je compliquerais la vie aux autres ainsi qu'à moi-même. »
Le professeur Jan Heller, né le 22 avril à Plzeň, a fait ses études à la faculté de Jan Hus et à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague. Il a également étudié une année à Bâle. Entre autres, il était également vicaire à Hořovice vers la fin des années 50. Et maintenant, je donne la parole à Jana Šustová, rédactrice des pages internet de la religion de la radio tchèque et fille du célèbre compositeur Jiří Šust, pour dire quelques mots sur le professeur Jan Heller.
Beaucoup de chrétiens en République tchèque sont tristes sur la perte d'un si grand théologien tel que fut le professeur Jan Heller. Mais ce que j'estime très important, c'est que son héritage reste vivant. Il a écrit plusieurs livres et sa voix vit toujours à travers les enregistrements de la radio tchèque. Comme a dit mon collègue Petr Vajura, Jan Heller était souvent l'invité des émissions La Parole Matinale et L'Onde Chrétienne. La Parole Matinale est diffusée par la radio tchèque depuis avril 2002 et dans les archives de la radio, il y a un grand nombre d'heures d'enregistrement avec professeur Heller. Les archives ont à nouveau été rendues accessibles sur le site internet de la religion qui font partie du site internet de la radio tchèque. Je crois que c'est un excellent service pour les chrétiens car l'émission La Parole Matinale est parmi eux très appréciés. Je suis souvent parmi les chrétiens. C'est pour cela que je sais qu'ils parlent beaucoup de cette mission, qu'ils soient catholiques ou protestants.
En l'honneur du professeur Jan Heller, la radio tchèque diffusera en février une émission en deux parties sur sa biographie.
Les émissions en langue française de Radio Prague se terminent, mais on se retrouve dès demain, même horaire, même fréquence. En attendant, l'information continue sur le www.radio.cz. À bientôt, ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.